Merci Serge. J'espère que vous allez bien. Moi, comme d'habitude, là, j'ai la pulsation cardiaque qui augmente un peu. Là. Il y a quelques années, j'ai acheté une maison un peu usagée. Hein. Elle avait plusieurs réparations à faire. Et puis, je me suis retrouvé devant des circonstances, des fois, où ce que j'étais devant une situation que je savais pas trop quoi faire. Je donne un exemple. Je trouve, à un moment donné, quand je descendais au sous-sol, il y avait toujours une odeur de vieux, là, je sais pas, une odeur de vieille maison, pas, ben, vous comprenez ce que je veux dire, de vieille maison, là. Et puis, excuse-moi Serge, je parlais pas de ton groupe. c'est ça, c'était vraiment juste de ma maison que je parlais. Et là, quand je descendais, mais là, je me suis posé la question, puis à un moment donné, j'avais comme un panneau de préfini, et puis juste un petit bout de planche là, qui cache le mur, puis je me suis dit, je vais regarder derrière ça. Et là, j'ai fait la gaffe d'aller regarder. Et je rouvre le panneau de préfini, puis je vois le mur pourri complètement. Là. Et là, en tirant justement le panneau de préfini, le G-Proc, puis le pourri a comme tombé en arrière, je peux même pas le replacer, puis faire comme si j'avais rien vu. J'aurais aimé, pendant ce temps-là, être l'homme invisible. J'ai rien vu, je sais pas c'est quoi, parce que je savais qu'il y a le travail qui m'attendait derrière ça. Évidemment, j'ai pas eu le choix de réparer ça. Il y a d'autres situations, des fois, dans nos vies où ce que c'est pas l'homme invisible qu'on a envie de devenir, mais des fois, c'est Hulk. Hein, je sais pas si vous avez essayé de réparer quelque chose. Des fois, mettons, une voiture. Je me souviens cet hiver avoir essayé de réparer ma voiture. Et puis, le froid, hein, c'est difficile avec le fer. Puis là, on essaye de dévisser quelque chose. Puis là, la tête, elle casse. Puis on se cogne les doigts en même temps sur quelque chose de dur. Et là, on se voit dans notre tête prendre le tout, faire une boule avec. Puis, pouf! Mais si on pouvait, heureusement, on n'est pas capable. Des fois, il y a des situations comme ça où est-ce qu'on se trouve, puis on a envie de devenir ces homus dominatus, je ne sais pas si ça existe vraiment en latin, là, mais des hommes qui dominent et puis que là, on va écraser, ou des homus mollus. Où est-ce que là on voudrait disparaître, on voudrait plus exister, on voudrait pas être vu et laisser les choses comme ça. Ce matin, on continue notre série avec Homme de Dieu. On reviendra un autre dimanche sur Femmes d'influence. On a un exemple dans les Écritures avec Néhémie. Comment être des hommes de courage? On se retrouve devant des situations, devant de l'opposition en tant qu'homme et on doit agir d'une façon qui est convenable, agir d'une façon qui convient au rôle que Dieu nous a donné. Il y a beaucoup de valeur à tirer du rôle que Dieu nous a donné. Malheureusement, ces tempéraments qu'on peut avoir dirigés, j'imagine, à cause du péché, à cause de notre nature pécheresse, qu'on a envie de dominer ou on a envie de s'effacer, c'est pas ce que Dieu désire. Et quand on agit de telle façon, en méprisant, je peux dire, le rôle que Dieu nous a donné, c'est beaucoup plus amer. Puis on finit qu'en bout de ligne, qu'à se tirer dans le pied. Mais on est devant des situations dans nos vies où on est face à l'opposition, puis on doit y faire face. Mais comment y faire face? Sans fuir ni dominer, on a à être prêt, messieurs, à faire face à l'opposition. Et ce matin, avec l'exemple de Néhémie, on va voir un bon exemple que Dieu nous laisse. Comment faire face à l'opposition? Est-ce que c'est en dominant ou est-ce que c'est en s'effaçant qu'on va pouvoir faire face? Je vous invite à tourner dans Néhémie 4. Le courage, souvent, il nous fait défaut. Qui que l'on soit, quelque tempérament qu'on peut avoir, le courage peut nous faire souvent défaut. Parfois, le courage prend ses jambes à son cou quand l'opposition arrive et puis on n'a pas envie d'y faire face. Je veux juste, pendant que vous tournez dans Néhémie 4, vous faire une couple deux citations qui ont été données. Une par Paige Williams qui dit dans son livre qui concerne la vie conjugale, dis-lui que tu l'aimes. Il raconte, j'ai demandé à une épouse ce que son mari faisait pour qu'elle veuille le quitter. Et sa réponse fut rien. Fréquemment, c'est ce que les hommes ne font pas en tant que chef du foyer qui cause le désordre familial plutôt que ce qu'ils font. Chuck Swindoll, il dit, « Il est absolument impératif, les hommes, que nous combattions notre tendance à être passifs dans les choses qui concernent le foyer. Le mari passif est encore la plainte la plus commune que j'entends des foyers en difficulté. Embrayez les hommes, c'est lui qui le dit là. Votre femme aura pour vous un respect grandissant aussitôt qu'elle verra votre désir de prendre le leadership et la gérance du foyer. Et ça ne concerne pas la domination. ça ne concerne pas non plus que de s'effacer, mais de jouer le rôle que Dieu nous a donné, qu'il nous a confié. Et j'ai beaucoup à être enseigné sur ce domaine-là aussi. Et je pense qu'il faut qu'on prenne le temps de regarder les Écritures pour voir qu'est-ce que Dieu nous a donné. Avant qu'on lise, j'aimerais qu'on fasse un mot de prière, que Dieu nous dirige dans sa parole. Seigneur, on vient devant toi pour t'adorer, pour te louer. Tout ce que tu as fait est parfait. Tout ce que tu as fait est bon pour nos vies. Et Dieu, tu nous dis dans ta parole que tu nous as donné un rôle à chacun. Tu nous montres clairement dans ta parole que hommes et femmes, on est égaux. Comme toi et ton Fils et l'Esprit, vous êtes égaux. Mais tu nous as donné des rôles aussi. Et Dieu, on veut ouvrir notre esprit, ouvrir notre cœur à t'écouter. Qu'est-ce que tu désires pour nous? Comment, Dieu, est-ce qu'on peut faire face à l'opposition sans réagir avec domination ou soit sans réagir avec en s'effaçant? Dieu, on veut que tu nous parles ce matin et que tu nous fasses du bien dans les rôles que tu nous as donnés. C'est au nom de ton Fils Jésus qu'on te prie. Amen. Vous savez, qu'on soit un homme marié ou célibataire, on a un rôle que Dieu nous a donné, que ce soit dans un foyer, que ce soit dans l'Église, que ce soit dans la société, on a à jouer le rôle que Dieu nous a donné. Et Néhémie, juste pour faire une courte rétrospective rapidement, si vous vous souvenez, Néhémie était à Suse, dans la capitale de Perse, et puis il était beaucoup touché par ce qui se passait en Juda à Jérusalem. Il entendait comment est-ce que les Juifs étaient maltraités, puis Néhémie, qui était l'échanson du roi, qui était un homme extrêmement important auprès du roi, bien, il est allé voir son roi, puis il a dit « Laisse-moi aller vers mes frères pour que je puisse reconstruire la muraille à Jérusalem. » Et le roi lui a donné tout ce qu'il avait de besoin, il a donné sa protection, a donné les lettres, a donné le matériel nécessaire pour que Néhémie puisse aller à Jérusalem et reconstruire la muraille. Néhémie arrive sur place, examine les lieux, on se souvient qu'il avait fait le tour pendant la nuit pour regarder ça, et puis après ça, mobilise le peuple, mobilise les gens, dirige les gens, les enrôle, et tout le monde se met à l'œuvre. Si on s'arrêtait au chapitre 3, de Néhémie, on se dirait, hey, Néhémie, il réussit sa construction sans difficulté, sans problème. Tout semble aller comme dans l'huile, comme sur des roulettes. Mais pourtant, on arrive maintenant dans une partie de l'histoire où l'opposition vient d'un secteur que Néhémie ne pouvait pas contrôler. Si Jérusalem était construite, était reconstruite, mais dans un sens, c'était négatif pour la Samarie, puisque Jérusalem était directement sur un chemin important marchand où ce que les gens pouvaient arrêter à Jérusalem. Et là, si la ville est reconstruite, bien, ils vont arrêter là plutôt que d'arrêter en Samarie. Alors, il y a de l'opposition qui va commencer à se soulever. Des gens qui ne sont pas d'accord que les murailles de Jérusalem se relèvent. Vous avez trouvé Néhémie 4. J'aimerais qu'on lise les versets 1 à 9. On va juste lire la première phrase du verset 9. Lorsque Sambala apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, « À quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? » Tobija la monnette était à côté de lui et il dit, « Laissez-les bâtir. Si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. » Néhémie répond, « Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés. Fais retomber leurs insultes sur leur tête et livre-les au piège sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leurs iniquités et que leurs péchés ne soient point effacés devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à sa moitié de la hauteur. Et le peuple prit à cœur ce travail. Mais Sambala, Tobija, les Arabes, les Ammonites, les Asdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous priâmes notre Dieu. » On va arrêter là pour l'instant. Comment s'enfuir ni dominer? Est-ce qu'on peut faire face à l'opposition? Et la première des choses que j'aimerais qu'on voit ce matin à travers l'exemple de Néhémie, c'est quand on est devant les difficultés, on doit remettre notre confiance absolument en Dieu. De replacer notre foi, notre confiance en Dieu. Peut-être qu'on est devant une situation où, quel que soit notre rôle, on a l'impression qu'on ne sera pas capable. On a l'impression que ça va nous causer beaucoup de tort. Mais ce premier pas, c'est de remettre notre confiance en Dieu. un jour, quand j'étais plus jeune, mon père m'a demandé de faire quelques constructions et puis des petites choses, par exemple, de réparer un patio. Et quand il m'a demandé de le faire, il m'a donné une poche de clous avec un marteau, puis il m'a dit, tu vois, les petites réparations, commence par ça. Et quand il m'a donné cette tâche-là, il m'a équipé avec les outils pour que je puisse le faire aussi. Et mon père, quand il m'a montré à faire des petites choses comme ça, il était avec moi. Il était près de moi. Il m'encourageait. On a besoin que d'avoir cette confiance-là que dans ce que Dieu nous a confié, quand Dieu vous a remis votre rôle, mais il vous a remis les outils qui vont avec aussi, puis il vous accompagne. Mais on a besoin que d'avoir cette confiance-là que Dieu est près de moi, que Dieu m'accompagne. La langue, c'est quelque chose qui peut faire très mal. La langue est quelque chose qui peut faire très mal. C'est ce que les Écritures nous enseignent partout, à plusieurs endroits. La langue, la dernière fois qu'on avait parlé sur le courage, vous vous souvenez, je vous ai posé la question, faites un mot avec courage. Puis on peut faire un mot encourager, puis décourager. Et tout cela vient de la langue. Je peux te donner le courage comme je peux te donner le découragement. Et ce qu'on voit dans la première partie du chapitre 4, c'est qu'il y a des gens qui ont commencé simplement à parler, à décourager. Sambala, il se moquait des Juifs, puis en méprisant leur travail, verset 2, il se moqua des Juifs, puis il a dit devant ses frères, puis devant les soldats de Samarie, « Mais à quoi est-ce qu'ils travaillent ces Juifs impuissants? Est-ce qu'on va les laisser faire? » Il remet en cause leur capacité, leur motivation réelle, il ridiculise leur mobile, et puis il tente d'affaiblir aussi leur détermination. Ce genre de position-là, peut se vivre encore aujourd'hui. La langue peut nous apporter beaucoup de découragement. Mais qu'est-ce que l'on fait quand on est découragé? Tobija, il dit, verset 3, la monite qui était à côté de lui, il dit, « Laissez-les bâtir, de toute façon, même si un renard sautait leur muraille, elle va s'écrouler. » Il est en train de remettre leur travail, de dire, « Regardez comment est-ce qu'ils travaillent. Ils travaillent tout croche. Ils ne seront pas capables. Leur muraille va être faible. » Si on entend des commentaires pour nos propres vies comme ça, ça peut être très difficile. Il y a un proverbe qui dit, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. » La langue peut nous apporter beaucoup de difficultés, beaucoup de troubles. Mais qu'est-ce que Néhémie a fait devant cette première opposition-là en parole? Mais il a répliqué aussi en parlant avec Dieu, en parlant à Dieu. Il a pris ces paroles-là, puis regardez verset 4, « Écoute, ô notre Dieu. » Est-ce que tu entends les gens qui se moquent de ton travail? Est-ce que tu entends les gens qui se moquent de ce que tu veux faire, de rebâtir la muraille? « Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés, fais retomber leurs insultes sur leur tête, livre-les au piège. » Néhémie s'est immédiatement tourné vers Dieu, puis a exposé sa frustration, sa colère, puis demande à Dieu d'intervenir. Quand on est dans une situation difficile, on devrait se tourner vers Dieu puis lui demander. Je vais juste faire une citation de Barber qui dit « L'anxiété ne diminue en rien la peine du lendemain, mais ne fait que nous affaiblir aujourd'hui. » L'anxiété que peut nous causer ces paroles-là peut nous affaiblir aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on fait? Bien, Néhémie s'est tourné immédiatement vers Dieu. Je ne sais pas si vous trouvez que les paroles de Néhémie, il me semble que c'est dur un peu. Il semble être dur face au peuple qui les méprise devant Dieu. Je veux juste peut-être juste répondre à la question. Néhémie, il dit, ne pardonne pas leurs iniquités. Il y a une prière vraiment d'imprécation où ce que juge les ennemis, détruis-les. Sa prière n'était pas motivée par le ressentiment ou d'autres motifs égoïstes, mais par une recherche désintéressée de la justice de Dieu. Il veut que la justice de Dieu soit accomplie, puis il remet entre les mains de Dieu finalement le sort de ces gens-là. La prière a plusieurs effets bénéfiques. Si vous vous souvenez, quand on a commencé avec Néhémie, la première chose que Néhémie a fait avant d'aller voir son roi pour demander de partir, c'est la prière. Néhémie, devant une situation d'opposition, et plutôt que de dominer, plutôt que de tout de suite sortir les armes, et puis plutôt que de fuir, mais il se replace devant Dieu. Il prie Dieu. Et puis dans la prière, mais il y a plusieurs effets bénéfiques. Exprimer nos sentiments à Dieu. Dieu désire certainement qu'on lui exprime nos sentiments. qu'est-ce que j'ai dans le cœur? Dieu, je peux te les dire. Il est intéressé. Et ça donne la possibilité de parler à Dieu de ce qui nous intéresse. Et puis dans la prière, ça nous permet de voir nos problèmes sous un angle nouveau, sous un différent angle qu'on n'avait peut-être pas pensé. La prière est primordiale pour maintenir pas seulement notre relation avec Dieu, mais aussi pour maintenir notre courage. On a besoin de la parole de Dieu. On a besoin que Dieu nous encourage. Les paroles peuvent être très difficiles pour qu'on puisse jouer notre rôle. Notre société peut ne pas nécessairement encourager le rôle de l'homme, peut la dévaloriser ce rôle-là. Mais qu'est-ce que Dieu me dit? Ça va m'encourager à le faire. J'ai besoin de me confier à Dieu, quelle que soit l'opposition, pour que je puisse avoir ce courage-là que Dieu veut me confier. Si seulement nous prions pour nos difficultés, si on priait plus pour nos difficultés, nous verrions peut-être notre colère, notre ressentiment se dissiper plus rapidement. Néhémie, quand il est parti de son... C'était pas réellement son pays, il était déporté dans ce pays-là. Mais quand il est parti pour retourner à Jérusalem, il avait la conviction ferme que c'était la volonté de Dieu, que c'était le travail de Dieu. Un peu à l'exemple de la poche de clou puis le marteau que mon père m'a donné, c'était le travail que mon père voulait que je fasse. Quand que Dieu a envoyé Néhémie pour faire ce travail-là, ben Néhémie avait cette conviction-là ferme que c'était son projet. En remettant à Dieu, justement, cette difficulté-là, c'est de dire à Dieu, je devais une opposition et qui va m'empêcher de faire ce rôle-là, va nous empêcher de faire ton projet. Mais Dieu peut intervenir à ce moment-là. Je vais juste relire, regarder le chapitre 4 où ce qu'on était tantôt. Le verset 6. Le peuple a retrouvé son courage. Pendant plusieurs années, les Juifs étaient à Jérusalem, puis ont tenté de rebâtir, puis ça a échoué à plusieurs reprises, mais ils ont continué. Et nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple, quoi? Il a pris à cœur le travail. Mais verset 9, il y a encore des gens qui se rassemblent pour attaquer. Et qu'est-ce qu'il fait, Néhémie? Nous priâmes notre Dieu. On a prié notre Dieu. C'est Dieu c'est le projet de Dieu. Tantôt, je parlais de la langue qui peut nous faire beaucoup de difficultés, beaucoup de torts. Ça peut nous décourager beaucoup dans notre rôle. Dans Jacques 2, ça dit, « Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt, la langue aussi est un feu. » C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Qu'est-ce que je fais quand des paroles viennent me créer du doute? Qu'est-ce que je fais quand des paroles viennent me décourager? C'est comme la langue est un petit peu qui peut enflammer tout, est un petit feu qui peut enflammer toute notre vie. On a besoin de replacer notre confiance en Dieu. De dire, Dieu, je te fais confiance. Tu m'as demandé de faire un projet. Tu m'as donné un rôle. Je suis devant une situation que je ne sais pas quoi faire, mais Dieu, je te demande d'agir. Dimanche soir dernier, on lisait, on se souvenait de l'œuvre de Christ, de l'œuvre de Jésus à la croix, puis on se souvenait que Dieu a un intérêt pour nous qu'on s'approche de lui. Qu'est-ce que je fais quand je ne suis plus capable? Qu'est-ce que je fais quand j'ai l'impression que le courage n'est plus là? Hébreux 4:16, je veux juste vous le citer. Approchons-nous donc avec assurance. Approchons-nous avec assurance auprès de Dieu, du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans quoi? Dans nos besoins. Dieu veut nous secourir, Dieu veut nous aider. Quand on est devant une situation, plutôt que de faire notre Hulk et puis de dominer la situation, puis de dire « je prends ça en main », puis finalement on se tire dans le pied, ou plutôt que de devenir l'homme invisible, puis de se dissiper, puis de laisser les choses aller, mais j'ai besoin d'y faire face en commençant premièrement à dire « Dieu, je te fais confiance, je suis devant cette situation-là, puis j'ai besoin de toi », de lui exprimer mon découragement, de lui exprimer mes sentiments, et d'ouvrir mon cœur à ce que Dieu va me dire aussi à travers ça. Alors, sans fuir, sans dominer, la deuxième chose qu'on a besoin de faire à l'exemple de Néhémie, devant les difficultés, il faut faire ce qui doit être fait. Ça paraît simple, hein? Faire ce qui doit être fait. On va continuer de lire les versets 9. On va finir le verset 9 jusqu'au verset 15. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Cependant, Judas disait, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Or, les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent 10 fois nous avertir de tous les lieux d'où ils se rendaient vers nous. C'est pourquoi je plaçai dans les effondrements, derrière la muraille et sur les terrains, des terrains secs, le peuple par famille, tous avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs. Je regardai et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos filles et vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leur projet et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Devant les difficultés, la première des choses, je remets ma confiance à Dieu. Dieu, je te fais confiance. J'ai l'impression de rien contrôler, mais je te laisse le contrôle. Puis la deuxième étape, bien Dieu, je te fais confiance, mais je vais faire ce qui doit être fait. Je vais faire ce que tu me demandes de faire aussi. Si on regarde l'exemple de Néhémie, c'est un excellent équilibre entre la foi, la prière et l'action. Verset 9, « Nous priâmes notre Dieu, et tout de suite après, qu'est-ce qu'il a fait? Nous établîmes des gardes, jour et nuit, pour être capables de se défendre contre leurs attaques. » Néhémie, dans son exemple, on voit que s'il a placé sa confiance en Dieu, bien, deuxièmement, il prépare le peuple aussi. Il leur parle, on a besoin de se placer, on a besoin d'être capable de se défendre. On a placé une garde. Néhémie, il s'est laissé avertir. Il y avait Jérusalem, puis il y avait des contrées aussi, qu'il y avait des Juifs dans d'autres contrées. Et ces Juifs-là pouvaient entendre ce que les autres nations disaient. Puis ils disaient, mais ils ont l'intention d'aller attaquer Jérusalem. Alors ces gens-là venaient voir Néhémie, puis ils disaient, hey, tel peuple a l'intention de venir vous attaquer. Puis là, tel autre peuple a l'intention de venir vous attaquer. Il y a plein de gens qui venaient avertir Néhémie, puis ils veulent vous attaquer. À verset 13, c'est pourquoi je plaçais dans les enfoncements derrière la muraille et sur des terrains secs le peuple, par famille, tous avec leur épée, leurs lances et leurs arcs. Il a renforcé les moyens de défense. Il s'est laissé avertir par les gens. Néhémie a fait ce qu'il devait faire pour protéger son peuple. Ils se sont fortifiés en se rappelant qu'ils combattaient non seulement pour la reconstruction de la muraille, mais également pour leur bien-aimé. Verset 14. Je regardais et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas. Souvenez-vous. Souvenez-vous de quoi? Quand on craint, de quoi est-ce qu'on doit se souvenir? Mais de Dieu qui nous a donné ce projet-là. C'est le projet de Dieu. Souvenez-vous de notre Dieu, Seigneur grand et redoutable. Et vous, combattez. Combattez pour vos frères, pour vos fils, pour vos filles, pour vos femmes, pour vos maisons. Combattez pour vos proches. Combattez pour vos biens. En livrant les combats que Dieu nous demande de livrer, n'oublions jamais que nous contribuons au plus grand bien-être et au bien des nôtres aussi. Au plus grand bien des proches qui sont près de nous, quand on joue notre rôle. On pourrait citer l'exemple de Néhémie. On pourrait donner un mot sur l'exemple de Néhémie, qui serait persévérance. Devant l'opposition, devant les difficultés, devant les menaces qui s'en viennent, la persévérance. C'est quoi la persévérance? Je ne sais pas si vous faites du sport, là, vous pouvez peut-être imaginer facilement à quoi ressemble la persévérance. Si demain, moi qui ne fais jamais de jogging, je décide, je m'en vais faire de la course. Bien, peut-être que, je ne sais pas si vous êtes comme moi, là, mais après peut-être 5 pas, j'aurai besoin de persévérance. J'aurai besoin, dès la première goutte de sueur, de dire, il faut que je continue. La persévérance, c'est à partir du moment, pas juste où on a pris la résolution de faire quelque chose, mais quand vient la difficulté dans cette résolution-là, je dis, je continue. Il y a un homme politique, juste vous faire son historique rapidement. En 22, il a fait une faillite en affaires. En 23, il a couru pour la législature, puis il a été défait. En 24, il a fait une autre défaite en affaires. En 25, finalement, il a été élu à la législature. En 26, sa femme est décédée. En 27, il a fait une dépression nerveuse, burn-out. En 29, défaite pour le rôle de speaker. Je ne sais pas, je n'ai pas la bonne traduction pour ça. En 31, défaite aux élections. En 34, défaite au Congrès. En 37, finalement, il est élu au Congrès. En 39, défaite au Congrès. En 46, défaite au Sénat. En 47, défaite comme vice-président. En 49, défaite comme sénateur. Un homme qui, pendant plus de 25 ans, a eu défaite par-dessus défaite par-dessus défaite. Mais Abraham Lincoln a fini quand même président des États-Unis parce qu'il a persévéré jusqu'à la fin. S'il s'était dit « c'est fini pour moi après la première défaite, j'arrête puis je baisse les bras », mais il n'aurait jamais été président. Il a joué un rôle que l'histoire lui a donné, que Dieu lui a donné certainement. Les rôles que Dieu nous confie, qu'est-ce qu'on fait devant l'opposition? Devant même des défaites qui peuvent être devant nous, est-ce qu'on persévère? Est-ce qu'on continue d'avancer? Puis dire « Dieu, tu m'as donné une conviction sur ce rôle-là. Tu m'as donné une conviction comment est-ce que je dois agir dans cette situation-là. Puis je vais avancer. Je vais persévérer. » Le bruit court de nos jours que si nous agissons bien, rien de mal ne peut nous arriver. Puis cette attitude-là est contraire aux enseignements des Écritures. Si je fais tout mon possible pour réparer mon auto, hein, des fois je pense de même, là, je fais tout mon possible, puis là, je veux rien perdre, puis je m'assure de mettre ça dans ma petite tôle aimantée, pas perdre mes boulons, puis je fais tout comme il faut, puis tout à coup, paf! J'ai l'impression d'avoir tout fait, puis ça manque. Mais les Écritures ne nous enseignent pas que parce que je fais la volonté de Dieu, puis parce que je suis obéissant, puis parce que je m'arrange pour plaire à Dieu, qu'il n'y aura jamais eu aucune opposition devant moi. Néhémie est un homme de Dieu qui est en train d'enrôler le peuple. Il est en train de faire certainement une œuvre que Dieu va bénir, que Dieu est en train de bénir. Mais devant cette opposition-là, est-ce qu'il baisse les bras? Au contraire, il se relève les manches. J'aurais pu vous citer Jean. Dans Jean 16, Jésus nous mettait en garde. Jésus mettait en garde ses disciples. Le monde m'a haï, le monde va vous haïr aussi. Vous avez besoin de connaître cette chose-là pour pas que vous soyez surpris. Vous allez en avoir des tribulations, vous allez en avoir des épreuves. Dans nos rôles en tant qu'hommes, il va en avoir de l'opposition. Mais comment est-ce qu'on y fait face? Je vais juste faire une autre citation de Barber. Fixer des objectifs pour un groupe de personnes en tant que chef, par exemple, est une chose. Mais persévérer dans le sens de cet objectif et inspirer les autres afin qu'ils soient motivés à nous suivre est une autre chose aussi.